Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution.
Et oui, c'est moi votre hôte Frédéric. Bienvenue à un autre épisode de Mauvaise Augure. Aujourd'hui, c'est un cas assez brutal, assez traumatisant. Vous voudrez pas que ça vous arrive. Ben, pas mal tous les cas que je présente, je pense qu'on voudrait pas que ça nous arrive. Mais deux, trois petites choses avant de commencer. Le Patreon, comme j'avais dit dans les autres épisodes, ça va être d'ici la fin du mois de juin. Je suis vraiment débordé, j'essaie de faire fitter mon horaire. Donc aussi, si vous voulez de la belle merch, Mauvaise Augure, sur redbubble.com, le lien est dans la description de l'épisode. Des t-shirts, des tasses à café, des caisses à cellulaire, des couvertures, des rideaux de douche, tout ce que tu peux t'imaginer, c'est là. Non, je déconne, mais il y a pas mal de stock. Ça fait le tour de mes annonces, on va commencer sans plus tarder avec le cas d'aujourd'hui, c'est l'histoire du couple Sumner. Qui se nomme Carol et James. C'est ça, ça se déroule en 2005 aux États-Unis, plus précisément à Jacksonville, dans l'État de la Floride. L'histoire amoureuse qui entoure la vie de ce couple-là est digne d'un film romantique, mais malheureusement, le développement prendra plus une tournure de film d'horreur psychologique. Leur histoire, qu'on peut dire, qui est vraiment peu banale, ça débute dans les années 1950, quand tous les deux fréquentèrent la même école élémentaire située à Charleston. Charleston, c'est en Caroline du Sud. Et c'est ça, les deux sont alors tombés en amour et se sont fréquentés quelques temps. Mais étant jeunes et d'un âge où ils avaient la vie devant eux, leurs chemins se sont séparés peu de temps après la remise des diplômes. Et c'est d'un commun accord que les deux avaient choisi de mettre fin à leur relation. Donc, ils ont fini en bons termes. À cette époque, les méthodes de communication n'étaient vraiment pas les mêmes. Et ayant tous deux pris des chemins différents, peu de temps après leur rupture, ils perdirent contact et la vie continua son cours. Les années s'écoula, plus d'une quarantaine pour être plus précis. Ouais, ils ont perdu contact pendant 40 ans. Puis la façon qu'ils ont pris contact après tout ce temps reste assez spéciale, mais avant de vous raconter ce segment, on va plus explorer ce qui s'est passé avec Carol et James pendant leur rupture de 40 ans. Une chose est certaine, c'est qu'ils l'ont vraiment pas eu facile, surtout Carol. Je vais débuter avec James. J'ai pas trouvé tant de documentation, mais il a été décrit par ses proches comme quelqu'un d'honnête, généreux et très aimable. Peu de temps après leur séparation, il s'est enrôlé dans la marine américaine. Il a servi pendant quelques années. Il a rencontré une femme. Il a tenté sa chance au mariage, mais sans succès. Ensuite, après son service militaire, il est employé dans une compagnie ferroviaire nommée la CSX Railroad. Étant atteint de diabète en prenant de l'âge, c'est devenu pas mal plus sévère. Il avait beaucoup de troubles de santé. Maintenant, Carol. Carol, pendant toutes ces années, elle a été mariée à deux reprises. Je sais pas avec lequel des deux époux, mais elle a eu deux enfants, un gars et une fille. Son premier mariage n'a pas fonctionné, bien sûr. Ça s'est conclu en divorce. Mais son deuxième mariage, il était vraiment désastreux. Elle était aux emprises avec un époux abusif et particulièrement violent. Et quand je dis particulièrement violent, c'est au point que Carol a failli pas s'en sortir et elle était chanceuse de s'en sortir en vie. Car en 1989, son deuxième époux a tenté de la tuer à l'aide d'un arme à feu. Sûrement en pensant qu'il l'avait achevé, son ex-mari a retourné l'arme contre lui-même et s'est suicidé après. Donc, comme je l'ai dit, elle s'en est sauvée, mais elle avait de graves blessures et son rétablissement fut d'une durée assez longue, près d'une année entière. Même sa fille Rhonda, qui était alors âgée de seulement 10 ans, a pris soin de Carol en aidant les infirmières du mieux qu'elle pouvait. Côté financier, c'était vraiment dur pour Carol. Elle pouvait pas travailler et son but était de retourner sur le marché du travail dès que son état de santé lui permet. Au fil des ans, elle travaillait dans différents domaines. Donc, elle avait pas vraiment de spécialisation étant mère au foyer avant les événements, puis tombée monoparentale, donc elle prenait ce qu'il y avait disponible. Ensuite, elle a maintenu un emploi comme fonctionnaire dans l'armée de l'air américaine pendant plus de 25 ans. Et Carol, aussi en vieillissant, était atteinte de graves problèmes de santé, malheureusement. Maintenant, on va retourner à leur retrouvaille avec ses produits, comme j'ai dit, plus de 40 ans après, sans aucun contact. Donc, ça s'est produit en 2000, je sais pas quel mois exactement. Et pour des raisons que j'ignore, qui sont pas vraiment importantes, James a appelé une compagnie fournisseur en câble visuel. Et la réceptionniste qui prit l'appel de James n'était nulle autre que Carol. Ouais, en tout cas, ils étaient vraiment faits pour être ensemble, ces deux-là. L'appel était strictement professionnel. C'est quand Carol lui a demandé son nom et prénom que James lui a répondu qu'elle a compris que c'était nul autre que le James avec qui elle avait eu une petite histoire d'amour à l'adolescence. Les deux devaient être vraiment surpris, j'imagine. Dès cet instant, ils reprirent contact. Et ils s'entendaient aussi bien que 40 ans auparavant. Ils retombèrent aussi très vite en amour, et semble-t-il qu'ils étaient vraiment beaux à voir ensemble. Maintenant inséparables, les deux avaient l'air de jeunes adolescents amoureux fous. Le seul problème dans cette histoire, c'est que James était encore en couple et habitait toujours avec sa première femme. Vous voyez un peu ce que je veux en venir avec cette histoire-là, quand même, malheureusement, un classique. Ah non, c'est pas vrai, James c'était un bon gars, il aimait vraiment Carol, puis quand ils ont repris ensemble après 40 ans, il était célibataire, divorcé. C'était deux bonnes personnes qui méritaient d'être heureux ensemble, puis de mourir en paix, mais malheureusement, le mal est arrivé, puis ce mal est arrivé de l'extérieur, sous le nom de Tiffany Cole. Les deux amoureux ont pu au moins profiter d'une relation d'une durée de 5 ans. En 2005, les deux étant alors âgés de 61 ans, et comme je l'ai dit, les deux avaient des gros problèmes de santé. Carol était maintenant atteinte d'un cancer et d'ostéoporose, puis elle souffrait aussi de diabète. Et James, lui, il était sévèrement atteint de diabète, comme j'ai dit, puis dû à une mauvaise chute qui est arrivée un peu avant, il pouvait à peine se déplacer, il devait le faire à l'aide d'une chaise roulante. James aussi souffrait d'ostéoporose, c'était pas mal plus agressif que celle de Carol, donc sa guérison de sa jambe, ça allait pas très bien. Dû à leur état de santé fragile, les deux décidèrent alors que déménager dans un endroit où le climat était plus sec et ensoleillé serait plus favorable pour leurs vieux jours. Donc ils décidèrent de déménager en Floride, à Jacksonville. Le couple quitta Charleston pour la Floride en mars 2005. Ils profiteront de leur nouvelle vie que très peu de temps, seulement quelques semaines avant que Katmos vienne tout faire basculer. J'ai mentionné son nom rapidement tantôt, Tiffany Cole. Ça, c'est une jeune femme que le couple a connue quand ils habitaient à Charleston. Le père de Tiffany était un des voisins proches du couple. Les Sumner, avec le temps, s'avaient pris d'affection pour la petite Tiffany Cole, qui était rendue maintenant une adulte. Avant de quitter Charleston pour la Floride, ils ont vendu un automobile usagé à Tiffany. Sachant qu'elle n'était pas riche, les Sumner lui ont laissé la voiture en échange de paiements mensuels. Et avant de quitter pour Jacksonville, les Sumner ont dit à Tiffany Cole que si elle passait par là, elle était toujours la bienvenue chez eux. Maintenant, on va survoler un peu la vie de Tiffany Cole, savoir un peu c'est qui. Vous allez devoir vous faire votre propre idée parce qu'il y a deux versions sur l'enfance de Cole. La première, ce serait qu'elle viendrait d'un milieu familial dysfonctionnel, où il y avait beaucoup de violence conjugale. Étant jeune, c'était une personne plutôt solitaire, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle commençait à se sauver de la résidence familiale alors qu'elle était seulement âgée de 12 ans. Ensuite, à l'adolescence, elle a recommencé à consommer de la drogue, de la cocaïne majoritairement. Et pour souvenir à sa dépendance, elle en aurait fait le commerce. Ça, c'est une version que vous pouvez trouver dans beaucoup d'articles sur le sujet, mais je sais pas si c'est elle qui a raconté ça, parce que j'ai vu une vidéo d'elle des années après, puis elle se contredit, en tout cas. Je vais y revenir à ma conclusion de l'épisode, vous allez plus comprendre. Après, vous allez savoir les faits aussi. La deuxième version, c'est qu'elle a eu une enfance tout à fait normale, puis en tout cas, Ses activités parascolaires semblent prouver qu'elle avait l'air sociale et elle avait des amis. Parce qu'elle était membre de l'équipe de majorette, elle était aussi dans l'orchestre scolaire, puis elle participait aussi dans l'organisation des scouts. Il est à noter que les événements que je vais vous conter, quand c'est arrivé, elle était âgée de 23 ans, et avant ça, elle n'avait jamais eu de démêlés avec la justice, donc je trouve que ça appuie un peu la deuxième version de son enfance, tout à fait normale. Mais peu importe, l'enfance qu'elle a eue, ça l'excuse pas les choix que tu fais dans la vie après un coup que t'es adulte. Bon, là, je peux parler en connaissance de cause parce que j'ai vécu des gros traumatismes étant quand même très jeune. Bon, ça a eu des grosses répercussions tout au long de ma vie, évidemment. Je me suis ramassé dans la rue quand même assez jeune. Puis, dans le milieu, j'ai grandi, j'ai rencontré beaucoup de gens puis, qui ont eu des enfances assez problématiques aussi. Puis la majorité de ce monde-là, ils deviennent pas des tueurs en série. Je suis pas devenu un monstre, moi non plus. Mais la majorité, ils ont bien plus des tendances autodestructrices. Pour aller tuer du monde sans raison ou devenir un tueur en série, je pense que ça, t'as ça en dedans de toi ou tu l'as pas. Peu importe ton parcours dans la vie, faut que tu sois vraiment fucké dans la tête. Depuis le déménagement des Sumner, Cole a fait le trajet à quelques reprises de Charleston jusqu'à Jacksonville pour rendre visite au couple et ainsi qu'effectuer des paiements sur le véhicule. Le trajet entre les deux est d'environ 3h45 en voiture. Il est arrivé à Cole de passer la nuit pour refaire le trajet contraire le lendemain matin. Comme j'ai dit, elle était la bienvenue chez les Sumner. Je sais pas à combien de reprises, mais elle a aussi emmené son nouveau copain qu'elle fréquentait depuis quelques semaines. Les Sumner les accueillaient à bras ouverts. Un nouveau copain de cause se nomme Michael James Jackson. Lui aussi est âgé de 23 ans au moment des événements. Jackson, c'est un vrai monstre, considéré comme un sociopathe. Et tenez-vous bien, chers auditeurs, parce que la relation entre Tiffany et Michael James Jackson a commencé après que Jackson aurait volé l'argent et la cocaïne de Tiffany qui se trouvait dans sa chambre d'hôtel. Et après ça, sûrement qu'elle est allée le revoir pour avoir ses trucs. Et ils se sont embrassés. Et une histoire d'amour a commencé. Non, mais ça se peut-tu, Chris? Un raisonnement tout à fait logique ici. Le gars, il vole ses affaires. Puis la fille, elle décide qu'elle va être en couple avec. C'est quoi la meilleure option? Donc, vous l'apprenez peut-être, mais il n'y a rien de mieux qu'une relation qui est bâtie sur le vol. C'est au cours d'une de ses visites chez les Sumner que Jackson remarqua que le couple semblait assez à l'aise monétairement et serait des proies faciles. Et de plus, Cole l'informa que les Sumner venaient juste de vendre leur ancienne propriété située à Charleston pour un montant d'environ 100 000 $. C'est après avoir entendu ces faits qu'en juin 2005, un plan machiavélique commençait à germer dans le cerveau souillé d'excréments de ces deux abrutis. Car le 10 juillet 2005, Rhonda, la fille de Carol, contactera les autorités pour remplir un rapport de personnes disparues, après avoir été sans contact et sans nouvelles de sa mère et James depuis plusieurs jours. Et vu leur état de santé, c'était très anormal et étaient en contact assez régulièrement. C'est le 12 juillet 2005 qu'un enquêteur aux homicides du nom de David Meacham se rendra au domicile des Sumner. Une fois sur les lieux, il remarqua que des documents bancaires étaient à la traîne un peu partout dans la résidence. En étudiant de plus près les documents bancaires, l'inspecteur Meacham a pu remarquer que les Sumner avaient une somme assez substantielle et a décidé d'appeler la banque en question. Il sera informé que dans les derniers jours, de larges sommes d'argent avaient été retirées par guichet électronique. Et d'après le relevé bancaire des derniers mois des Sumner, c'était vraiment pas dans leur habitude. Après avoir été informé de ces faits, l'inspecteur Meacham fera suspendre les opérations dans le compte. Très peu de temps après, dans la même journée, Meacham sera informé qu'un certain James Sumner a tenté de lui parler par téléphone et a laissé un message. Meacham, plutôt douteux, retournera l'appel au prétendu James Sumner. Ce dernier prétenda que lui et Mme Carol avaient dû quitter rapidement pour le Delaware pour assister au service funéraire d'une des sœurs de Carol. Ils avaient besoin d'avoir accès à leur compte de banque. Ils n'ont jamais trop posé de questions, à savoir pourquoi que leur compte avait été gelé. Donc, Mitchum, vraiment suspicieux, demandera de parler à Carol. Une femme prendra alors l'appareil, prétextant être Carol Sumner. Elle dirait être fatiguée parce qu'elle est atteinte du cancer. Une fois l'appel terminé, Mitchum recontactera la banque pour réautoriser les opérations dans le compte. Histoire de voir qu'est-ce qui se passe, puis de tenter d'identifier où c'est que les opérations sont faites, puis par qui. Il fera aussi retracer l'appel et sera alors informé que le téléphone appartient à un certain Michael James Jackson, qui, d'après le signal satellite, est à proximité de la résidence des Sumner le soir de leur disparition. Et les enquêteurs remarquèrent aussi que sur le registre des appels et messages faits par le cellulaire, il y a des appels qui ont été faits dans un centre de location de véhicules situé à Charleston. Après avoir contacté l'entreprise, ils apprendront que le numéro de téléphone était relié à une location au nom de Tiffany Cole. Eh oui, une voiture de modèle Mazda RX-8. Les enquêteurs ont été aussi heureux d'apprendre que tous les véhicules de l'entreprise étaient équipés de systèmes de géolocalisation. C'est en étudiant les déplacements du véhicule qu'ils ont pu confirmer que le véhicule que Cole avait loué avait été à proximité de la résidence des Sumner. Le 13 juillet, alors que l'enquêteur Mitchum continuait son enquête sur la disparition du couple, que Jackson fit de nombreux retraits d'argent dans le compte bancaire. Son visage fut capturé sur de multiples systèmes de vidéosurveillance. Et la voiture louée peut être retracée à Charleston. Un policier de la place du nom de James Rowan a fait la découverte du Mazda, qui était stationné dans un endroit abandonné, près du détaillant où Cole avait loué la voiture. Après cette découverte, James Rowan ainsi qu'une équipe de policiers se sont rendus à la résidence de Tiffany Cole. Elle y était absente, mais son frère était là. Et après quelques explications, il a guidé les policiers vers un hôtel non loin de là, où, semble-t-il, Tiffany et Jackson logeaient. C'est en questionnant la réception de l'hôtel que les policiers apprirent que deux chambres avaient été louées sous le nom de Tiffany Cole. Ils feront une opération policière dans les deux chambres d'hôtel en même temps, où ils pourront mettre la main sur Cole Jackson ainsi qu'un dénommé Alan Wade. De plus, sur les lieux, ils trouveront une multitude d'objets incriminants et de preuves, tels que des cartes bancaires appartenant aux Sumner, leurs passeports et d'autres pièces d'identité. Ils trouveront aussi la collection de pièces de monnaie appartenant à James. Et les policiers mettront aussi la main sur les derniers achats faits par les criminels, comme un ordinateur et des sacs contenant des vêtements neufs. Il y a des photos aussi de Tiffany Cole et James Jackson qui ont été trouvées. On peut les voir dans une limousine avec du champagne. Ils font la grosse vie, puis ça, c'est juste avant les événements. Des clichés qui aideront pas pour leur procès, disons. Les trois suspects sont emmenés au poste de police. Ils seront interrogés. Et Tiffany Cole, pendant son interrogatoire, affirmera que pendant les heures avant les événements, elle, Jackson et Wade, ainsi qu'une autre femme qui n'est pas liée au crime, elle faisait la fête sur la plage de Myrtle. Et à leur retour, les quatre se seraient arrêtés dans un commerce d'objets usagés pour y acheter des couteaux de poche ainsi qu'un fusil à plomb qui avait l'air d'une vraie arme à feu. Vous vous demandez c'est qui Alan Wade? C'est leur troisième complice et il y en avait un quatrième aussi qui se nomme Bruce Nixon. Bruce Nixon se livrera à la police par lui-même et coopérera par la suite avec les autorités. Ce qui aidera à démystifier l'histoire et les événements qui sont arrivés au Sumner. Nixon leur indiqua aussi où ils avaient enterré le couple. Vous vous demandez ce qui est arrivé au Sumner, ça s'en vient bientôt. Les faits qui vont suivre, ça vient de la déclaration que Bruce Nixon a donnée à son procès en échange d'une diminution de sentence. Bon, c'est la version d'un criminel, mais ça semble assez plausible d'après les preuves puis les éléments qu'ils ont trouvés dans l'enquête. Nixon, c'est un bon ami d'Alan Wade, qui au moment des événements étaient tous deux âgés de 18 ans. Nixon a été contacté par Wade pour prendre part dans l'invasion de missiles chez les Sumner. Jackson était, semble-t-il, le leader, la tête des opérations. Et le plan initial était d'entrer chez les Sumner pendant la nuit, les maîtrisant, les attachant, pour ensuite leur soutirer leur information bancaire et partirent avec les objets de valeur. Mais très rapidement, le plan se changea. Ils décidèrent à l'unisson que, pour des raisons pratiques, le mieux était de tuer les sommeurs. Jackson aurait alors informé les trois autres attardés qui s'occuperaient du couple en leur injectant un produit qui causerait leur mort. En préparation pour leur crime, quelques jours avant, Nixon alla voler des outils de jardinage, dont quatre pelles. Tiffany Cole, elle, se rendait au centre de location de voitures pour louer la Mazda RX-8. Deux jours avant les événements, Wade, Jackson et Cole iront chercher Nixon chez lui. Le but de cette balade en voiture n'a qu'un seul objectif, et c'est de trouver un endroit isolé pour se débarrasser du couple après les avoir tués. Ils trouveront cet endroit non loin entre la frontière entre la Géorgie et la Floride. Sûrement qu'ils se sont dit que le plan parfait, c'est de se débarrasser des corps dans un autre état, comme si on était encore dans les années 1940. Donc, après avoir trouvé l'endroit parfait, ils se sont mis à leur besogne, puis c'est ça. Ils ont creusé un trou d'environ 4 pieds par 6 pieds. Pendant que les trois jeunes hommes creusaient, Tiffany Cole les éclairait avec la lampe torche. Après leur sinistre corvée d'excavation, ils ont laissé les pelles sur place. Bon, il y a un fait dans sa déclaration, je trouve, que ça fait pas. Semble-t-il que c'est après avoir creusé ce trou-là qu'ils ont décidé, les quatre, qu'ils allaient tuer les sommeurs. Pas avant d'avoir creusé le trou. Semble-t-il que Tiffany Cole était au courant d'une journée où ce que les sommeurs allaient pas être présents. Mais le but, c'était qu'ils soient présents pour qu'ils puissent soutirer leur numéro d'identification bancaire. Et les tuer, c'était aussi dans le plan parce que sinon, ils auraient annulé leur carte bancaire assez vite après qu'ils aient été libérés ou retrouvés. Ça semblait être parfait. Ils tuaient les sommeurs. Les sommeurs ne pouvaient pas annuler leur carte. Comme ça, eux autres pouvaient faire leur retrait d'argent tranquille sans que personne ne se doute de rien. Donc, c'est dans la soirée du 8 juillet 2005, seulement quelques heures avant les événements, que le quatre tueurs de Tarlat sont allés faire du shopping. En plus d'avoir acheté les couteaux de poche et le fusil à plomb, ils ont acheté du ruban adhésif, de grosses attaches en plastique de type tie wrap. Et pour laisser un élément incriminant de plus, comme un vrai cerveau du crime, Cole a payé avec un chèque personnel avec son propre nom dessus. Pour de simples petits articles comme ça. Plus tard dans la nuit, avec Cole au volant de la Mazda, Jackson, Wade ainsi que Nixon se dirigèrent tous vers la résidence des Sumner. Wade et Nixon, qui n'avaient jamais vu le couple auparavant, sont allés frapper à la porte d'entrée, sous prétexte de devoir faire un appel urgent. Le couple les laissa entrer. C'est alors que Wade, simulant son appel avec le téléphone résidentiel à la main, arracha le combiné de la prise murale. Et au même moment, Nixon sortit une arme à feu et la pointa sur les Sumner. Après avoir maîtrisé le couple en les ligotant, les deux criminels contactèrent Jackson, qui sans perdre une seconde alla les rejoindre à l'intérieur. Pendant que Jackson fouilla la maison pour voler des objets de valeur et trouver la documentation bancaire, Wade et Nixon escortèrent le couple jusqu'au garage pour ensuite les forcer à se placer dans le coffre arrière de leur propre voiture, un véhicule de marque Lincoln's. J'ose pas imaginer comment les pauvres Sumner devaient paniquer. Pendant tout ce temps-là, Tiffany Cole est restée à l'extérieur et monta la garde au volant de la Mazda. Ensuite, quand la maison fut fouillée par Jackson, le sinistre cortège débuta sa route pour l'emplacement choisi en Géorgie. Wade et Nixon prenaient place dans la voiture des Sumner et Jackson accompagna Cole avec la voiture Mazda. Une fois arrivé sur les lieux, Cole, toujours dans la Mazda, restera garé sur la route principale non loin de l'emplacement. Pendant ce temps, Jackson, Nixon et Wade, ainsi que la Lincoln avec les Sumner dans le coffre arrière, prendront chemin du sentier et se dirigeront vers le trou. Rendus sur les lieux, ils placèrent le pauvre couple dans le trou. Jackson, sûrement les terrorisant plus qu'il l'était déjà, réussit à leur soutirer leur numéro d'identification bancaire. Pour confirmer, il a appelé le service automatisé de la banque. Et un coup qu'il a eu les bons numéros, semble-t-il que Nixon est allé rejoindre Tiffany Cole. Et pendant ce temps, Jackson et Wade, à l'aide des pelles qu'ils avaient laissées auparavant, ont enterré le couple vivant. Ouais, vivant. J'ai déjà pensé au pays mort que j'aimerais pas qu'il m'arrive. Mourir brûlé, ça doit pas être plaisant. Mais enterré vivant et tout, ça, on est une qui est dans le top de la liste. Non. Après les avoir enterrés, ils ont mis les pelles dans le coffre arrière de la Lincoln. Et sur le chemin du retour vers l'État de la Floride, ils se sont départis du véhicule des Sumner, vraiment pas loin d'où ils venaient d'enterrer le couple vivant. Après, les quatre, tous à bord de la Mazda, se sont dirigés vers une succursale bancaire où Jackson retira une grosse somme d'argent qu'ils partagèrent tous entre eux. Dans les jours qui ont suivi, ils ont loué des chambres d'hôtel, c'est ça, ils sont retournés chez les Sumner. Semble-t-il que c'est Wade et Cole qui sont retournés pour trouver d'autres articles de valeur qui se sont débarrassés aux prêteurs sur gage. Bruce Nixon, après, quitta le groupe pour retourner chez lui dans le comté de Baker, qui est situé en Floride, pour ensuite assister à une soirée, un party, où il a été vu plusieurs reprises avec un gros sac contenant plein de médicaments de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. J'imagine qu'il est tombé dedans parce que pendant la soirée, en plus, il a commenté à plusieurs reprises qu'il venait de tuer des gens en les enterrant vivants. C'était pas écrit dans le rapport s'il a dit ça aux gens de la soirée pour se vanter ou il était pris de remords puis il était juste affecté par les drogues et l'alcool un petit peu trop. Ensuite, vous connaissez les événements. Ils se sont fait arrêter à Charleston. Bruce Nixon s'est rendu après aux autorités. Les procédures judiciaires et leurs sentences. Il y a eu beaucoup de facteurs aggravants dans le dossier. Préméditation, le fait que les Sumner ont été tués pendant qu'ils les avaient kidnappés, le fait que c'était des personnes vulnérables, que les gestes ont été commis pour des gains monétaires. Tous ces facteurs ont fait qu'ils étaient tous passibles de la peine de mort. Donc le procès de Tiffany Cole, tentera de faire croire que le trou qu'elle a creusé, c'était pour enterrer les objets qui allaient voler chez les Sumner. Bon, les autres, elle pensait qu'ils jouaient aux pirates, là, puis qu'elle allait sûrement faire une petite carte au trésor après. Encore, elle déblatéra aussi qu'elle croyait qu'ils amenaient les Sumner au trou juste pour leur faire peur, pour leur soutirer leur numéro d'identification personnelle. Mais les membres du jury ont vu clair dans son petit jeu, dû au fait qu'ils ont vu les photos de la journée avant les événements, le gros party dans la limousine, puis sur le bord de la plage. Après ça, ils ont su qu'elle avait acheté de l'eau de Javel et des gants pour aller nettoyer quand ils sont retournés après sur les lieux, quand les Sumner étaient déjà morts. Elle dit avouer aussi que c'était elle qui s'avait fait passer pour Carol Sumner quand ils ont appelé l'inspecteur Mitchum. Et bien sûr, c'était nul autre que Jackson qui tentait de se faire passer pour James Sumner. Jackson, à son procès pour sa défense, déclara qu'il n'a jamais été question de tuer les Sumner, que lui et Stephen Cole avaient attendu dans la voiture et que c'est Wade et Nixon qui avaient tué le couple puis qui avaient décidé de le tuer, que les autres n'étaient pas au courant, que c'était un gentil garçon, blablabla. Pour Cole, je sais pas trop sa défense, mais ça devait être le même genre. En tout cas, les membres de toutes les jurys, ils ont trouvé coupables et ils ont été jugés à la peine de mort. Il y a juste Nixon qui a pu s'en tirer avec une peine de 45 ans de prison pour meurtre au deuxième degré, vu qu'il avait coopéré tout au long de l'enquête et pendant les procédures judiciaires. Le juge Michael Witherby a déclaré que son intention était d'imposer une sentence d'emprisonnement à vie. Mais semble-t-il que Nixon a démontré beaucoup de remords et était en larmes à son témoignage en cours. Il a aussi demandé pardon et pitié aux proches des victimes. Je sais qu'après Jackson et Tiffany Cole sont allés en appel, mais ça a été refusé. Sûrement que Wade a fait la même affaire aussi. J'espère que leur sentence sera jamais révisée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Tiffany Cole elle a eu une peine trop sévère, qu'elle mérite pas la peine de mort. Moi, je crois qu'elle la mérite. Peu importe son passé, il y a des gens qui disent qu'elle était jeune et influençable, qu'elle a été influencée par Jackson. On parle pas d'un mauvais coup, là. On parle de tuer du monde, les enterrer vivants. Elle savait très bien, les quatre le savaient ce qu'elle allait faire le soir que c'est arrivé, que les Sumner allaient mourir ce soir-là. Peu importe sa vie, ses circonstances qui l'amenaient là, ça l'excuse à rien. Puis, pour revenir à ce que je disais au début, qui contredit un peu son enfance, c'est une vidéo d'elle des années après, dans le couloir de la mort. C'est une entrevue avec, je me souviens plus quelle équipe de télévision, mais cette entrevue-là, tu vois qu'elle est vraiment à l'air d'une vraie psychopathe. Son regard, il est vraiment louche, elle n'a pas l'air fiable pour deux scènes. ses cheveux, elle a comme deux couettes pour avoir l'air d'une petite fille innocente. D'après moi, c'est vraiment ça son but avec sa coiffure. Mais en tout cas, c'est ça. Son argument dans l'entrevue, c'est qu'elle dit que ça fait juste 3 semaines qu'elle connaissait Jackson, puis qu'elle s'est fait entraîner là-dedans, influencer, parce que c'était une petite fille qui a jamais eu de problème de sa vie, et que tout allait bien dans sa vie avant qu'elle commence à fréquenter Jackson. Ses arguments se contredisent un petit peu. Un petit peu beaucoup, même. Mais c'est quoi? Ça aurait fait 10 ans qu'elle aurait été avec Jackson. Elle aurait sûrement dit « Ah, ça fait 10 ans que j'étais avec, j'avais pas le choix, tu sais, je suis quelqu'un d'influençable. » Même si vous comprenez pas trop l'anglais, je vous conseille fortement d'aller zioter cette entrevue télévisuelle avec Tiffany Cole. Le lien pour l'écouter est dans la description de mon épisode. Donc, pour Wade, j'ai pas trop parlé de lui dans l'épisode, mais lui, en tout cas, il a pas l'air tout là. J'ai vu une photo, il a l'air vraiment d'un psycho. Il a les yeux qui font peur, là. Encore une histoire de fou avec des faits horribles. Ça a été quand même assez pesant, rechercher les faits puis tout ça. Mais il y a un avis du crime qui s'en vient, soit demain ou après-demain. En tout cas, c'est dans les prochains jours. Ça va détendre un peu l'atmosphère. Et dimanche, dans 2 semaines, je reviens avec un autre épisode normal. Et presque en même temps, le Patreon avec du matériel exclusif, avec une petite contribution pour pouvoir écouter ça. Ça s'en vient bientôt, fin du mois. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, partagez entre vos amis, parlez-en. C'est moi qui produis tout seul. Ça prend quand même de mon temps. C'est un podcast amateur. C'est con, mais j'ai reçu des commentaires un peu négatifs qui me comparaient à des gros podcasts professionnels. Sérieusement, je sais que je suis pas le meilleur narrateur, mais je fais ça pour le fun. Donc, si vous aimez pas, tant pis. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas d'aller sur Redbubble, acheter de la marchandise. Vous connaissez la chanson si vous êtes un habitué du podcast. Sinon, faites attention à vous autres, barrez votre porte et fermez vos volets.
Le meurtre prémédité.
De nombreuses recherches qui avaient été effectuées.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. Pour l'instant.
Pour l'instant.